France Musique.
Bonjour Jean-Paul Rapneau.
Bonjour.
Merci de nous recevoir ce matin ici chez vous. Vous êtes l'invité d'honneur du Festival du film de Rueil Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Ça s'appelle Le Bonheur fait son cinéma. Ça commence la semaine prochaine, le 29 janvier. Et c'est jusqu'au 2 février, le 29 janvier, avec un ciné-concert autour des musiques de vos films. Vos films d'ailleurs comme réalisateur, Jean-Paul Rapneau, car vous êtes aussi scénariste, on peut tous les citer parce qu'il y en a 8 longs métrages. Mais quel film ? La vie de château, Les mariés de l'an 2, Le sauvage, Tout feu tout flamme, Cyrano de Bergerac, Le hussard sur le toit, Bon voyage, et il y a 5 ans, Belle famille. Michel Legrand est à l'honneur jusqu'à dimanche à la Maison de la Radio. 3 concerts, demain, samedi et dimanche. Il a composé, Jean-Paul Rapneau, la musique de vos 3 premiers films. Comment vous êtes rencontrés ?
Écoutez, alors donc c'est ce premier film, c'est à l'occasion de ce premier film qui s'appelait donc, qui était mon premier film, qui s'appelait La vie de château, que j'avais donc écrit et pour lequel je pensais qu'il n'y aurait pas de musique. C'est ça qui est. La musique qui maintenant fait partie de moi, de ce que j'ai essayé de faire dans les films, ça m'a été apporté par Michel parce que pour ce film, La vie de château, où je cherchais vraiment, où le rythme était, où la recherche d'un certain rythme a été l'objet de tout mon travail d'écriture, avec notamment un échange de dialogue très rapide, un rythme constant, rien qui retombe. Moi, je pensais en faisant le film qu'il n'y aurait pas la place pour la musique et qu'on mettrait quelques chansons de Charles Trenet. Et quand le film a été fini, qui a été tourné, je l'ai montré à mes amis. Un a posé la question, c'est mon grand ami Louis Malle, qui n'est plus là, mais qui m'a dit « Mais alors, qui fera la musique ?» Mais j'ai dit « Mais il n'y aura pas de musique. » « Mais comment, c'est impossible ? » ?»« Mais attendez, un film sans musique, il faut qu'il y ait quelque chose. »« Il y aura quelques chansons de traîner. » »« Non, mais la musique, je ne parle pas du générique. » Et je lui dis « Mais non, il n'y aura pas. » »« Ce n'est pas possible, me disent-ils. » Alors, Louis Malle, mais les autres aussi, ce n'est pas possible. Le film appelle cela. Ah bon, bravo, très bien. Et je dis, mais je vois pas qui peut faire ça. Et je crois que c'est Louis Malle, le premier, qui me dit, mais écoute, il y en a qu'un. C'est donc Michel Legrand, écoute. On était là l'année qui a suivi l'arrivée des parapluies de Cherbourg.
La
Palme d'Or du Festival de Cannes. Je l'appelle, on me donne son numéro, je l'appelle. Et je lui dis, voilà, j'ai fait un film, il vient, on fait connaissance à ce moment-là. Et je lui dis, vous m'en voudrez pas, parce que c'est un film très, très dialogué, peut-être trop dialogué, je ne sais pas. Et je vois pas très bien comment on peut mettre de la musique là-dedans. Non. Mais je vous le montre quand même. Vous inquiétez pas, dit-il avec sa voix qu'on a tous dans l'oreille. Bon, alors, il aime beaucoup le film. Et je lui dis, mais alors comment, vous voyez quand même, il n'y a pas la place. Vous inquiétez pas. Mais qu'allez-vous faire? Vous inquiétez pas. Alors, moi je m'inquiète pas, mais quand même, j'aurais ça là. Non. Mais je peux vous rappeler dans 8 jours. Donc, il part, et 8 jours plus tard, il m'appelle, et je vais chez lui, donc. Un matin, il est à son piano, il me dit « Voilà, j'ai pensé à quelque chose. Voilà le thème. » Mais le thème comment là, à quel moment ? Bah, déjà, le thème générique, puis ensuite, on le développe plus tard dans le film. Alors oui, peut-être, bon. Il se met au piano, il joue le thème. Il joue ce thème que j'adore, et qui fait partie de ma vie, maintenant. Enfin, en tout cas, de mes... Je ne vais pas vous le chanter, mais ça fait partie de mes refrains préférés. Et contrairement à ce que j'attendais, en fait, il avait joué, comme il le disait plus après, mais les sentiments. Moi, je pensais qu'il allait faire une chose très sautillante. Et c'est ce que j'ai aussi appris de lui, c'est qu'il m'a dit, mais on n'est pas là pour faire des dessins, une musique de dessin animé. Moi, je joue les sentiments. Et avec quelque chose qui vous prend le cœur, comme les grandes chansons de Michel.
« Cinq ans après cette vie de château, Jean-Paul Rapneau, il y a Les Mariés de l'an 2, ce film qui se passe à la Révolution française, à Nantes, avec Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, le premier film vraiment historique pour lequel Michel Legrand écrit. Il y a Podane un an avant, mais enfin là, c'est une histoire non réelle, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce film? Quand on écoute, on a l'impression d'entendre une musique de cette époque, avec le clavecin, tout ça.
Oui, c'est ça. Alors, peut-être parce qu'il m'avait converti à la musique. Et pendant l'écriture, j'écoutais beaucoup. Enfin, j'écoutais beaucoup un concerto pour orgue de Handel. Et donc, quand je suis retourné voir Michel, donc, pour ce deuxième film, il m'a dit, alors que tu ah, oui, d'accord, mais alors, attends, 18e siècle, mais tu as eu une idée? Donc, je lui ai fait écouter ce concerto, pas tout, hein, le début, il avait déjà compris. Oui, d'accord, je vois. Mais à partir de là, on ne retrouve pas le concerto du tout dans ce qu'il a composé. Il faut jouer l'amour, même au XVIIIe siècle. Michel pouvait répondre présent tout de suite. Et la manière dont il a mêlé un thème guerrier à ces histoires d'amour d'enfance, qui est raconté dans le film, moi une fois plus, ébloui, quoi. Une musique extraordinaire. Michel était un musicien de jazz. Et donc, la pulsion du jazz, c'est ça qui, pour moi, a été essentiel dans les films que j'ai fait avec lui. Il y a la pulsion derrière, il y a la mélodie qui raconte, avec émotion, les sentiments profonds des personnages, mais derrière, il y a quelque chose qui pulse. Voilà. Alors, Michel, c'est ça. On ne s'endort pas.
Jean-Paul Rapneau, en 1975, votre troisième et dernière collaboration avec Michel Legrand, c'est Le Sauvage. On retrouve Catherine Deneuve, cette fois avec Yves Montand. Est-ce que Michel Legrand, qui a beaucoup écrit pour des films avec Catherine Deneuve, est-ce qu'il écrivait une musique en fonction d'elle à l'image ou pas du tout?
Ah, je pense, oui. Il y a deux aventures. Il y a celle de Deneuve dans le film et il y a surtout celle de Yves Montand. Ce misanthrope qui vit dans une île loin de tout, qui ne veut voir personne. Et tout de suite, Michel avait dit, alors lui, évidemment, ça sera le cor anglais. Parce que, disait-il, c'est l'instrument de l'aventure et du rêve d'aventure, voilà. Dans les westerns, dans les grands westerns, il y a ce corps de temps en temps, enfin assez souvent dans les films, notamment dans un très beau moment musical où on voit Montand prendre son bateau et partir vers le large.
Merci Jean-Paul Rapneau. Je rappelle donc que vous êtes à l'honneur au Festival du film de Rueil-Malmaison. Le Bonheur fait son cinéma, c'est du 29 janvier au 2 février, avec un ciné-concert au théâtre André Malraux ce 29 janvier. On se quitte, si vous voulez bien, avec la musique du Sauvage, où Catherine Deneuve n'a jamais été aussi belle. De la musique du Sauvage, musique de Michel Legrand pour le film de Jean-Paul Rapneau. Une musique à retrouver sur le coffret, les 20 CD que vous avez édité. Stéphane Lerouge, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Auteur avec Michel Legrand de J'ai le regret de vous dire oui, cette biographie où il se raconte cette vie romanesque parue chez Fayard 4 mois avant sa disparition. C'était donc en 2018 et puis ce coffret qui lui-même est sorti il y a 2 mois avant sa mort. Alors je dis mort, disparition, mais on va faire un hommage vivant jusqu'à 9h. Il y a ces 3 concerts demain, samedi, dimanche, dont vous assurez la direction, conseiller artistique, avec ce concert symphonique, ce concert jazz et ce concert chanson, avec beaucoup de nouveautés. Le fil peut-être de ces concerts, c'est que c'est pas toujours les mêmes musiques, il y a des choses nouvelles.
Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est l'œuvre de Michel est tellement pléthorique, inépuisable, et que on s'est dit qu'il fallait trouver une sorte de juste équilibre entre à la fois, évidemment, on peut pas éviter certains incontournables, certains standards, et puis en même temps faire des pas de côté et révéler la richesse de toutes ces œuvres. Et voilà, notamment, on a pu pour le concert de demain soir faire quelque chose qu'il rêvait de faire, c'est-à-dire de faire une suite sur cette fameuse bande originale qui est sa dernière bande originale, sa dernière composition pour le cinéma. Qui est celle pour le film posthume d'Orson Welles, The Other Side of the Wind. Et voilà. Et donc, on a créé cette suite symphonique, on l'a montée, on l'a agencée. Elle va te répéter d'ailleurs tout à l'heure et elle sera créée demain soir. Et je trouve que c'est une formidable façon de continuer à conjuguer Legrand au présent.
La dernière musique de film de Michel Legrand, c'est pour un film d'Orson Welles. C'est quand même un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. En quelques mots, c'est quoi l'histoire étonnante de ce film et de ce score, cette musique originale?
En version synthèse de synthèse, Welles a tourné ce film entre 70 et 76 de façon un peu ininterrompue. Il ne l'a jamais monté. Peut-être volontairement, on ne sait pas exactement comment, pourquoi. Et puis un jour, il y a un producteur qui a décidé de racheter les droits du film, de localiser le matériel, de faire monter le film. Là, on était en vers 2010-2011. Juridiquement et techniquement, ça a pris à nouveau 7 ans. Et puis, ils ont retrouvé dans un agenda de Welles cette phrase magique « Call Legrand for the music ». Donc, ils ont appelé Michel Legrand, mais 45 ans plus tard, c'est une façon étonnante d'inverser le cours du temps. Michel a écrit la musique en février 2018, ça fait quasiment 2 ans. Elle était enregistrée au mois de mars. Et voilà. Et je n'oublierai jamais ce moment où Michel a présenté le film et a découvert le film mixé à la Cinémathèque en novembre 2018.
Très ému.
Très, très ému. Et puis voilà, d'autant plus qu'au générique du film, la production avait réutilisé la musique de ce que lui considérait être comme sa première grande bande originale, L'Amérique insolite de François Reichenbach, dont c'était un peu une façon de boucler la boucle.
Mais cette musique, en voici un extrait. We'll be right back. un extrait de la musique de The Other Side of the Wind, film posthume d'Orson Welles, musique de Michel Legrand, qu'on retrouve sur ce coffret, cette intégrale de 20 disques que vous éditez dans la collection Écoutez le cinéma chez Universal. Musique, Stéphane Lerouge. Nous sommes en ligne avec Macha Merrill. Bonjour Macha.
Bonjour.
Cette musique, The Other Side of the Wind, vous avez assisté, vous avez participé, vous l'avez suivi dans sa composition.
Oui. Alors d'abord, je veux dire que c'est pas de trop trois concerts pour couvrir l'œuvre colossale de Michel Legrand. Et s'il a su aimer, insuffler le jazz à peu près dans toutes ses œuvres, c'était comme ça un amour de l'Amérique aussi. Et quand il a travaillé aux États-Unis, il a évidemment rencontré tous ces grands personnages de Hollywood, et entre autres Orson Welles, qui à l'époque était revenu à Hollywood, qui avait d'ailleurs été très blessé qu'on ne le reçoive pas comme le grand génie qu'il était. Ils ont fait un film ensemble qui s'appelait F for Fake, qui n'est pas un film génial, parce que Welles, c'est extraordinaire. Il a fait les trucs à l'envers. Il a commencé par ses chefs-d'œuvre quand il avait 20 ans, et il a fini par des films un peu bizarres, un peu expérimentaux, qui ressemble à des films de jeunes cinéastes. Mais quand il a commencé à tourner ce film, il a tout de suite pensé que ce serait Michel qui ferait la musique, car il voulait un environnement de jazz, et avec des... Michel était un orchestrateur incroyable, hors pair, et donc vraiment, il savait manier le jazz aussi, il savait s'en servir. Alors quand nous avons, au bout tellement d'années, quand ce film finalement... c'est fait, c'est réuni, tous les éléments qui étaient éparpillés partout dans toutes les salles de montage du monde et surtout en France. Michel a été très flatté que, par testament, Welles ait demandé qu'il fasse la musique. Puis quand il a vu le film, il était très désarçonné, car il n'y comprenait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il trouvait que Welles n'avait pas vraiment, comment dire, maîtrisé cette espèce de grande envie qu'il avait, au fond, de régler des comptes avec plein de choses, de régler des comptes avec Hollywood, avec le cinéma en général, avec la nouvelle vague dont il était un peu jaloux, avec les cinéastes qu'il avait suivi. Et il a fait ce film vraiment dans un désarroi complet. Déjà, il était un peu fatigué. Les deux dernières années, c'était vraiment, tout était un peu plus difficile pour lui. Mais il l'a fait avec beaucoup de passion et rapidement, parce que naturellement, vous savez, les musiciens, ils arrivent toujours en bout de course. Donc on leur demande toujours de faire les choses vitesse grand V. Et ça, Michel, il était champion là-dedans.
Il a fait à peu près 1h40 de musique en un mois, c'est ça?
C'est ça, oui. Et puis il y avait, Macha, tu t'en souviens, il y avait aussi cette situation qui était unique. C'était la première fois de son parcours de compositeur pour l'image où il n'avait pas en face de lui le metteur en scène. Et il se demandait souvent, il disait, mais là, à tel enchaînement harmonique, à tel accord, à telle modulation, comment est-ce que Welles aurait réagi? Et c'était étrange d'avoir déjà presque un dialogue avec un cinéaste absent.
Il m'a dit toujours, et un jour un journaliste un peu stupide qui lui avait posé la question, monsieur, voilà, je vais vous donner cinq films et vous allez me dire quelle musique vous allez faire. Il s'est fâché terriblement parce qu'il a dit, mais qu'est-ce que vous croyez? La musique, c'est le fruit d'une réflexion de plusieurs mois, c'est le fruit d'un dialogue avec un cinéaste. Chaque film nécessite une musique différente. Et ça, c'était vraiment son génie. Si on écoute toutes ces musiques, elles sont toutes extrêmement différentes les unes des autres. Car il cherchait l'âme du film. Et je crois que c'est ça un peu la vertu de la musique. La musique, par son abstraction, par sa richesse et aussi par cette espèce de pouvoir que la musique a directement sur notre cœur, c'est comme si elle exprimait la philosophie d'un film, l'esprit d'un film. Et il y a un metteur en scène qui a extrêmement bien dit ça, c'est Jean-Paul Rapneau, qui a dit que quand il a entendu la musique de Michel, que Michel avait fait pour son film, pour Les Mariés de l'an 2, il a vu son film. Tout d'un coup, il a compris son film. Et c'est ça la place du compositeur. Et vous savez, c'est une bataille que nous allons mener, et d'ailleurs Stéphane et moi, dans le futur festival que nous allons faire, c'est de faire comprendre la place du compositeur dans un film. Et surtout de la réhabiliter, parce que les jeunes cinéastes, comme ils ne sont pas mélomanes, ils ont un peu la trouille, ils ont peur de prendre un grand compositeur en pensant qu'il va
les manger.
Or, pas du tout, c'est le contraire. Un grand compositeur, un grand musicien, non seulement il se met au service du metteur en scène, mais il lui trouve des choses que le metteur en scène lui-même n'avait pas vues. Alors ça, c'était vrai. Alors ne pas avoir le cinéaste en face de lui, près de lui, pour dialoguer et pour essayer même de peut-être lui faire corriger des choses du film. Moi, j'ai vu ça beaucoup. Michel a fait refaire certains montages des films dont il a fait la musique pour le bien du film, parce qu'il expliquait qu'il y avait des durées qui étaient nécessaires et puis peut-être des moments qu'il fallait couper. Et donc c'est vraiment un acte qui n'est pas seulement un acte de musicien, mais aussi un acte de cinéma. Et Michel, il était vraiment un grand, grand connaisseur du cinéma.
Masha Merril, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur France Musique. Vous avez fait un très beau cadeau à Michel Legrand, à votre mari. Vous avez chanté sur un disque qui vient de paraître avec Hervé Célin. Cette chanson, elle s'appelle « Celui-là ». On l'écoute ?
Ah, oh, c'est gentil.
Celui-là qui tenait dans sa main la jeunesse et la gloire et l'amour. Celui-là qui vivait pour demain, le combat de chaque jour. Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons. Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil se tacher de sang noir. Celui-là qui n'aurait pas voulu que là-bas d'autres hommes se tuent. Celui-là, parce qu'il avait parlé d'aimer. Celui-là, d'autres mains l'ont tué. Celui-là, celui-là, celui-là.
Celui-là, Masha Merril, qui parle et qui chante cette chanson des années 60 de Michel Legrand avec Hervé Célin. C'est sur ce disque Le Grand Dedication, hommage d'Hervé Célin. Ça vient de paraître. Stéphane Lerouge est avec nous pour parler de ces trois concerts, demain, samedi et dimanche à Radio France, à l'Auditorium et au Studio 104, avec cette musique qu'on entendra demain soir du film d'Orson Welles dont on a tant parlé. En fait, il a fait énormément de choses les dernières années de sa vie, Michel Legrand.
Oui, il y a eu
comme une accélération.
Une espèce d'accélération et un besoin aussi, ou une envie consciente ou inconsciente, de refermer des dossiers. C'est-à-dire, il y avait par exemple ce grand projet d'oratorio écrit pour Streisand qu'elle avait refusé et qu'il a abouti avec Nathalie Dessay, qui s'appelle Between Yesterday and Tomorrow. Il y a donc ce film de Wells qu'il a rattrapé. Il y a ses retrouvailles et ce mariage avec Masha.
Il y a votre livre.
Il y a le livre,
vous
évidemment.
Avec vous.
D'ailleurs, on a pu intégrer toute l'aventure.
J'ai le regret de vous dire oui.
Oui, l'aventure wellsienne, justement, The Other Side of the Wind. C'est le dernier chapitre, le livre était bouclé. On a réintégré in extremis ce chapitre dans le bouquin avant qu'il parte en fabrication. Il y a ce coffret que l'on a fait. Voilà, il y a eu vraiment une sorte d'envie. Et puis aussi ce virage vers la musique de concert, il tenait absolument à...
Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck, les deux concertos.
Piano-violoncelle. D'ailleurs, c'est très étrange parce que Michel avait fait un disque Gershwin dans les années 50-60 où il avait à la fois fait la direction d'orchestre et il tenait le piano en re-re. Et là, au départ, il disait « je vais tout faire ». Et quand il a rencontré Mico Franck, il se dit « non, très bien, je le laisse diriger, il comprendra très bien, il va entrer dans l'intériorité de ma musique ». Et Michel a tenu le piano. Et c'était une grande aventure. Et je trouve ça magnifique. magnifique d'avoir le Philharmonique sur deux concerts pendant ce week-end pour prolonger cette rencontre du Philhar avec Michel.
Dimanche après-midi avec Nathalie Dosset, justement, concert autour des chansons. Et demain soir, concert symphonique. Il y aura cette suite Jacques Demy, il y aura la musique d'or pour le film d'Orson Welles. Et puis, il y a un concerto pour flûte avec Magali Monnier, Stéphane Leroux. C'est quoi ce concerto pour flûte?
Alors, écoutez, moi, je l'ai entendu hier pour la première fois. C'était absolument, c'était défenestrant, c'était renversant, c'était hallucinogène. C'est une musique refusée. Michel a eu plusieurs partitions qui ont été refusées, souvent sur des films américains d'ailleurs, mais pas seulement. Le Cercle Rouge de Melville, un western avec Burt Reynolds, s'appelle L'homme qui aimait Cat Dancing. Et là, c'est un film, et ça, c'était une vraie blessure. Il le disait d'ailleurs dans le livre, il y a un chapitre sur les musiques, sur vraiment les rendez-vous manqués, les dissonances avec dans le rapport au cinéaste. Et c'est une partition dans laquelle il a mis beaucoup d'ambition. Il s'est mis à nu dans cette partition et il a oublié ses autres, certains tics ou automatismes ou trucs d'écriture. Il s'est rapproché de l'écriture de Michael Tippett, que le metteur en scène avait utilisé en musique temporaire sur le film. Et il a écrit un double concerto, violoncelle, sur le personnage de Sean Connery.
Violon-violoncelle.
Et violon sur le personnage d'Audrey Hepburn. Ça filme sur Robin des Bois et Marianne vieillissant et qui finissent dans la mort. Et c'est ce qui l'a touché. C'était une histoire, disait-il, d'amour, de mort et d'éternité. La musique a été rejetée. Il en a fait une quasi-dépression. Et très souvent, il m'a dit « Je tiens à considérer cette musique comme un matériel vivant ». Il en a fait, des années plus tard, 30 ans plus tard, un concerto pour flûte de Pan, mais dont il n'était pas complètement content, parce qu'il disait « j'aurais pas dû prendre cet instrument soliste-là ». C'était pour un soliste roumain qui s'appelait Simeon Stanciu, dit Syrinx. Et donc, brusquement, un jour, il m'a dit « il faudrait qu'on le refasse, que je le repense, mais pour flûte ». Et puis, on s'est dit, on a eu la chance d'avoir Radio France qui nous propose ces trois concerts, ce week-end hommage, et qu'on ait le Philharmonique. Et on s'est dit, il faut absolument créer ce concerto. Et en plus, le Philharmonique nous a offert une sublime flûtiste, Magali Monnier. Et je vous assure, hier, à la répétition, elle tutoyait les anges.
Ce sera demain soir sur France Musique en direct à 20h. Ce sera aussi à l'auditorium de Radio France. Magali Monnier dans ce concerto pour flûte inédit de Michel Legrand avec l'orchestre philharmonique de Radio France d'après cette musique refusée, musique de la rose et la flèche. Thème d'amour de la rose et la flèche, ce film pour lequel Michel Legrand a écrit une musique qui n'a pas été acceptée par le cinéaste Richard Lister et qui sera donc donnée demain soir en concerto pour flûte avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Magali Monnier, avec Magali Monnier à la flûte, Stéphane Le Rouge.
Franck Strobel à la direction d'orchestre. Et je peux juste dire que je suis très ému en réécoutant ce thème, parce que le Festival Lumière, Thierry Frémaux, Bertrand Tavernier à l'Institut Lumière à Lyon avaient rendu hommage à Michel en 2014, et on avait fait une expérience, on avait montré la séquence finale de ce film en resynchronisant la musique de Michel. Michel a été remplacé par un autre grand compositeur anglais, qui s'appelle John Barry, mais on a remis sa musique, notamment le thème qu'on vient d'entendre sur la fin du film, sur la mort de Robin des Bois et Marianne. Et j'ai rarement vu Michel, en public en tout cas, pris d'une telle émotion. Il s'est mis à pleurer. Vraiment, les larmes sont coulées. Et puis il m'a pris le bras, il m'a serré le bras, ça très 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 fort, devant cette situation qui le bouleversait. Il a retrouvé toute l'émotion qu'il avait eue lorsqu'il avait mis ce film en musique, lorsqu'il s'était retrouvé devant ces feuilles blanches qu'il avait dû traiter, la mort comme ça. Et il disait, c'est un film magnifique parce qu'il m'a emmené loin et haut, parce que c'est un film sur le vieillissement des mythes. Les mythes peuvent-ils vieillir ?
Et c'est ce couple qui meurt à la fin de ce film avec Audrey Hepburn et Sean Connery. Voici une autre chanteuse. Elle sera dimanche à Radio France. Elle a été très proche de Michel Legrand ces dernières années.
Where does wind go? Nobody seems to know. What makes the sun come up and the moon go down? Who fills the clouds with rain? Why is my head so full of questions that nobody can explain? Why do some people die before they get old? Where do they go when they die? What makes ice so cold and fire so hot? No one can tell me why. Where does wind, where does wind come from?
Ça, c'est Between Yesterday and Tomorrow, sorti il y a quelques années avec Nathalie Dessay, donc c'est elle qui chante, et c'est cette oratorio, on peut dire, ou ce cycle de chansons que Barbara Streisand avait refusé de chanter parce qu'elle voulait pas chanter la mort de la femme.
Et la naissance.
Ni la naissance.
Elle voulait pas chanter les deux extrémités du cycle. Et là, vous voyez, on parle de... Macha parlait de l'intransigeance de Michel, mais c'est vrai. Quand quelqu'un, même si c'est Barbara Streisand, faisait un peu, avait une objection, un caprice, il disait, je suis désolé, mais on le fait pas. Il aurait pu se plier à la diva Streisand. Non, il a dit, je préfère le garder et le faire plus tard, peut-être avec quelqu'un d'autre.
Bien plus tard.
Et moi, je trouve ça très émouvant qu'il l'ait abouti avec Nathalie Dessay, parce qu'il y a aussi ça dans les dernières années de la vie de Michel. Il y a aussi une vie d'artiste et de créateur régénérée de perspectives fraîches avec des nouveaux collaborateurs de création. Nathalie, évidemment, et puis du côté du cinéma, Xavier Beauvois, qui était un cinéaste décisif sur les dernières années avec deux films, La Rançon de la Gloire et Les Gardiennes.
Stéphane Le Rouge, notre invité ce matin, merci. J'ai le regret de vous dire oui. La biographie de Michel Legrand que vous avez écrit
à quatre mains
chez Fayard. Le magnifique coffret ultime de la musique de Michel Legrand, sorti 20 CD. Vous êtes le conseiller artistique de ces trois concerts demain soir en direct sur France Musique, samedi et dimanche.
À réécouter sur francemusique.fr.